Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Payback, le pay-per-view le plus chaud de la rentrée. Mais avant ça, on fera un tout petit détour, mais tout petit, vous allez voir, hein, vers SmackDown, qui avait lieu juste avant le pay-per-view, histoire de mettre tout ça au clair. Et je ne ferai pas ça tout seul, non. Je suis accompagné de deux méga stars du podcast Game Ringside. Bienvenue.
Yeah. Merci, Irem. Bienvenue à tous. Bonjour, ouais. Merci. Et hâte.
Et au revoir.
De rien. Et de rien.
Salut les cons.
J'avais dit que ce serait Express.
Express. Voilà. Allez, on enchaîne. Le deuxième chroniqueur de talent.
C'est Papy. Salut Papy.
Boom.
Bonjour les petits enfants. Bonjour à tous. Alors, le mot de la fin, le top. On était où?
Le top, c'est qu'on va passer sur ce SmackDown très rapidement. Il s'est passé des choses. Nous étions le 1er septembre en Pennsylvanie et c'était le grand retour de John Cena à SmackDown dans une arène pleine à craquer. Il était chaud, bouillant. Et surtout, il a une annonce qui nous lie avec le pay-per-view qu'on va analyser juste après. Voilà, tout est lié, hein, mes amis. Il sera le host, donc l'animateur hein, de Payback. Qui va. Alors, c'est sorti de nulle part, hein. Ça ne voulait absolument rien dire, ça sort vraiment de nulle part. Visiblement, il a du temps libre, John Cena, entre deux tournages, puisqu'il va être là un paquet de semaines. Et ça va commencer donc avec cette apparition à Payback. Donc, on en tremble d'avance. Et la musique de Jimmy est arrivée. Jimmy Uso, souvenez-vous, hein, il devait faire un petit coup la semaine dernière, mais bon, on a eu. Un événement malheureux qui avait chamboulé un petit peu les plans de la Bloodline. On lui en voudra pas, mais lui, du coup, il nous en veut et il en veut à John, puisqu'il commence à lui chercher des noises avec John Cena. Et puis ça va se terminer tout simplement avec un attitude adjustment après avoir balancé sur Jay, comme quoi voilà, il veut sauver son frère hein, pour la dixième fois. S'il le faut, il a peur que Jay devienne corrompu comme Roman Reigns ou comme John Cena, quoi, hein, les multi-champions et visiblement le titre de champion du monde, c'est l'anneau de Sauron hein, qui corrompt les grands champions de la WWE. Et donc le frère l'a fait pour sauver son frère, tout simplement. Super kick avorté, double A ajusté. Messieurs, on est content de retrouver John Cena, tout simplement.
Ouais, c'est très bien. Bravo, c'est important en ces temps où il n'y a pas de scénario qui puisse bosser un peu quand même, le petit.
Exactement. Je ne sais pas si on veut qu'il bosse toujours, c'est la LWO, Rey Mysterio et Santos Escobar.
qui vont être en grève.
Je croyais que les scénaristes et la LWO devraient être en grève, tout simplement. Affronter une drôle de paire, hein. Austin Theory et Grayson Waller, hein, un petit peu qu'on a comparé hein, pas mal de fois à Ketchup, ici à Ketchup. Mm. Et du coup, on a mis ce duo de tête à claque ensemble pour ce tag team match. Et tout simplement, Grayson Waller a placé son cutter là, sur Santos Escobar pour un petit tombé, le victoire. Donc, victoire des méchants, voilà, des têtes à claque. Victoire des têtes à claque face aux gentils de la LWO.
Avec Santos qui se sacrifie pour sauver Rey.
Et du coup, tous les faits du match vous seront fournis par Papy. Hein, qui a les sur cage match, il a les notes, les faits du match.
Donc, j'ai duré les notes, les applaudissements et tout là. Là, c'était un match, franchement, qui a plu aux foules.
Jimmy Uso qui frappe une femme en direct à la télévision. Hein, après, sûr. En même temps, qui n'a pas envie de lui donner des baffes hein, en Chine, voilà. Devant Adam Pearce, du coup Adam Pearce dit on frappe pas les femmes. Et puis Michine, bah, qui fait la dure, en fait, 2 minutes plus tard, elle va pleurer auprès de ses potes, Karl Anderson, Luke Gallows, et juste elle fait quoi, il y a de l'embrouille. Et du coup, ce sera le match de le main event. Et du coup, on joue le garde.
Même pas.
Non, c'est pas le main event.
Mais non. Parce que AJ Styles va trouver Jimmy Uso et est intercepté par le main eventer du show.
Ah oui, le main eventer, tu as raison. Solo, mais oui, un autre fait du match. Tu as raison, Solo qui arrive et qui va du coup sera celui qui affrontera AJ Styles. Et donc, on a toujours un petit peu la Bloodline qui tourne autour hein, de Jimmy pour essayer peut-être de faire revenir hein, dans le clan. Hein. C'est ce que fait un petit peu, c'est le message un petit peu qui est passé.
Il n'a même pas quitté le clan d'ailleurs, si on écoute Jimmy. Solo, il dit c'est nous qui disons quand est-ce que tu pars.
Ouais, ah, c'est la mafia. Ça, c'est des répliques de mafieux. Ça.
Et on notera que Gallows et Anderson n'ont pas du tout envie de se mouiller, de se mêler aux histoires de la Bloodline. Hein. Ils ont perdu vraiment toute ambition. Hein. On l'avait remarqué déjà, mais Là, c'est...
Oh, c'est pas grave, Michine. Hein. C'est pas grave, ça
ouais,
arrive.
C'est pas grave, ça arrive. De
c'est, pas la c'est pas la première, c'est pas la dernière claque que tu te prendras, de toute façon. Allez, retour dans cuisine. Voilà, hein, voilà, un épisode sous le signe du sexisme, évidemment, à la WWE. En parlant de sexisme, un petit peu de racisme, vous en prendrez un petit peu avec la nouvelle faction de Bobby Lashley. Hein,
ah voilà. Bah oui, je vais me demander ce qu'il est lié, ces trois ensemble.
Voilà, voilà, il suffit, pas besoin de mettre le son, il suffit de regarder pour voir ce qu'il lie tous ces hommes. Alors, Street Profits, c'est toujours le bordel, on comprend pas trop, ils sont gentils, ils sont méchants, ils sont... de quel côté de la force c'est utile, on ne sait pas. Si vous le savez, envoyez je sais au 8-16-16. Bobby Lashley qui fait son entrée, qui dit ah, écoutez, que se passe-t-il? Et ben voilà, il a reconnu les Street Profits, c'est des, voilà, c'est des vrais mecs. Le duo fait son entrée, donc il les adoube, hein, il va les prendre, il les prend sous son aile, charismatique, athlétique, mais il l'était déjà avant, hein, il n'avait pas besoin de Bobby Lashley. Il dit écoute, ce soir on ne parle pas des Street Profits, on va juste dire merci, merci. Bobby, et donc la petite mise en garde de Bobby lui dit attention, on vient pour les titres. Voilà. Kevin Owens, ils veulent tout. C'est toujours.
C'est le début.
C'est le début. C'est
pour l'instant, c'est complètement nul, mais peut-être que avec le temps, ça va se roder et puis ça va fonctionner. On sait
Au moins, ils ont décidé de raconter quelque chose cette semaine. Voilà. C'est déjà un déjà, mini progrès.
Ils posent les bases. Hein. Ils disent voilà, on est là pour les titres.
Vous prendrez bien une petite dose de LWO. Non, ils ne veulent pas.
Sans façon.
C'est la type de babyface, vraiment la moins over de ces 10 dernières années. C'est un truc de ouf. En plus, bah, ils affrontent une autre team de babyface, la vraie plus over. Donc c'est un petit peu bizarre d'ailleurs. Hein. Babyface contre babyface. On a plus rien à foutre, je crois, là, de ce SmackDown. Et ça se termine par un love kick de Sami Zayn et le tag sur KO qui fait le stunner pour le tomber. Une victoire des Canadiens qui prennent un peu le micro derrière pour ambiancer, pour démarrer le Judgment Day qu'ils affronteront donc à Payback.
Joli match, mais rapide. Ils ont laissé un petit peu briller les Mexicains, mais bon, comme ça a duré 4 minutes. Enfin, pas encore pour cette fois, LWO.
Ah, du coup, il n'y a pas plus de notes sur Cage Match à cause de ça.
Ah bah voilà, ouais.
Allez.
C'est pas, voilà, on ne sait pas trop quoi en penser. Du coup.
Voilà, je ne veux pas donner mon avis. Je suis bloqué.
D'accord. Le Miz est débarqué. Il dit bah voilà. Alors, le Miz, voilà, il fait ce promo. Il est là toutes les semaines, tous les jours, quasiment. LA Knight va faire son plus grand match de sa carrière. LA Knight n'est même pas la moitié de la star que. Ne sera même pas la star que la moitié de la star que le Miz était hein, il y a 10 ans. LA Knight arrive, il se met face au Miz. LA Knight dit ouais, t'as déjà fait le Rock en cosplay. T'es le roi du cosplay, le Rock, Cena, LA Knight, pourquoi pas, c'est pas mal. Ces gens-là, c'est comme des quand même des points de référence, tous ces gens. Et puis il va dire bah, voilà, tu n'es pas de mon niveau. Ça s'envoie quelques noises, quelques trucs pas mal placés. Dit c'est pas lui, même le Miz, voilà, il dit que le Miz n'était même pas la star de sa propre mission, que c'était la star, c'était sa femme. Et puis, tout pour, voilà, qui l'attend. Alors, je ne vais pas vous faire toute la promo. Hein. Et puis, voilà, à Payback, le seul adversaire, il lui a dit qu'à Payback, le Miz ne sera pas voilà, seulement un adversaire, sera un espèce de vaisseau spatial pour voyager dans le temps et qui va pouvoir retourner dans son appartement pourri. Elena, il va pouvoir retourner dans son vieil appart en 2003. Et l'autre lui dit, qu'est-ce que tu lui dis oh,
je vais baiser ta femme, il lui a dit.
Oui, c'est ça. Oui, il va visiter sa femme, je sais pas quoi, il va aller dans l'intérieur.
Ça sera un coup de fil une fois que tu aurais cassé ta gueule.
Ouais, c'est ça, exactement. C'était un petit peu douteux. J'avais pensé, Poleman avait fait la même il y a quelques mois de ça. C'était un peu douteux.
Pas très classe, ce LA Knight, là.
Non. Et puis.
Faut pas que le laisser sortir du script.
Ça sort un petit peu en brawl, quoi. C'est un petit peu en baston. Bon, voilà, tout ça.
Oui, il se court après sous le titantron et tout.
Ouais, voilà.
C'est que LA Knight se fait surprendre, mais après, il lâche pas l'affaire. Ce mauvais perdant.
Il est courageux. Hein. Mmh. Et classe.
Ouais, classe et courageux. Oh. Toujours prêt à attaquer un ennemi dans le dos.
Simplement. C'est Shotzi qui passe un DDT sur Bayley et qui a gagné son match. Voilà. Donc ça c'est du grand n'importe quoi. Il y a Charlotte Flair qui a débarqué, qui a attaqué Io Sky. Alors Io Sky, votre championne qui a agi comme la première jobeuse venue, hein, puisqu'elle fonce vers Charlotte et puis elle se fait cueillir d'un gros kick dans la tronche et puis elle disparaît. Donc votre championne, hein, mesdames et messieurs. Et puis Dakota Kai, c'est pareil, elle se fait étaler. Charlotte Flair en profite voilà, pour un petit peu agresser Bayley et Shotzi donc en profite pour gagner, tout simplement.
Voilà. Bayley qui essaie d'utiliser la ceinture juste sous le nez de l'arbitre.
Hein.
Ça n'avait aucun sens, c'était très mal exécuté, c'était vraiment très très mauvais. Hein.
C'était très nul. Et puis on arrive à Summer Event, hein, avant de passer enfin à Payback, Solo Sikoa versus AJ Styles, donc gros, belle affiche. Polo est là, il est côté, il est ringside, il vient un petit peu créer le trouble hein, pendant ce match. Et puis on arrive un petit peu sur la fin avec le Phenomenal Forearm qui est chargé, et puis Jimmy qui arrive pour foutre le bordel, et Solo Sikoa qui profite de la situation. Il place un Samoan Spike, hein, oui c'est ça, pour l'emporter. Mmh. Et après derrière, Jimmy, il est un petit peu content.
Mais Solo veut lui péter la gueule quand même.
Mais Solo voilà. veut lui péter la
il
gueule.
A pas, il a pas calé que c'est Jimmy qui lui a sauvé le.
Réflexe, un Solo. Mmh. Il fait, hop, et puis Polaman fait hop, non, on fait pas ça ici, pas maintenant, pas touche à Jimmy. Sûrement que le parrain a des plans pour Jimmy. Et Jimmy fait un super kick à AJ Styles et puis on a un splash et le show donc se termine comme ça avec les deux frangins qui se regardent de loin, qui se toisent, qui se jugent, et notre show bleu se termine, mes amis. Un petit top, un petit flop à retenir, une petite note à mettre avant qu'on passe à Payback, tiens, ringside, un truc que t'as kiffé, un truc que t'as pas kiffé, et puis une petite note.
Ouais, bah, le flop, je vais le mettre aux filles, hein. Comme je disais, c'était vraiment très nul. Je sais pas qui s'occupe des filles en ce moment, mais à SmackDown, mais en tout cas, à chaque fois, c'est loupé, quoi qu'il fasse. Et là, ça n'échappe pas à la règle. Et le top, j'ai envie de le mettre à Jimmy Uso, qui a fait un super boulot, et qui fait son petit face-à-face avec John Cena. Est-ce qu'on aura peut-être plus tard un match Jimmy-John? Je ne sais pas. Jimmy Big John, mais en tout cas, je croise les doigts. Je suis juste très déçu que John Cena ne nous a pas annoncé la validation de WrestleMania à Londres. Mm. Je suppose que c'est pas encore signé, hein, je ne sais pas. Ça devrait plus tarder maintenant, je pense. Et je mettrai la note de 3 étoiles.
Oh, 3 étoiles. Pas mal. Et toi, papy, alors, ça t'a ambiancé ce SmackDown juste avant Payback?
Oh, c'était moyenasse quand même. Hein. Je ne vais pas le cacher. C'est la bloodline de C, là, parce que du coup, on a ni Roman Reigns ni Jey Uso, donc ça commence vraiment à chuter. Pour le flop, je vais le mettre. Alors, tu l'as donné du coup à Shotzi. Et au reste des filles, bah, du coup, je le donnais à Shotzi, au reste des filles, voilà, on va s'en chier.
T'allais dire aux filles et au reste de Shotzi.
voilà, les filles et reste de Shotzi, c'est les restes des cheveux de Shotzi, c'est comme pas terrible. Le top, moi, je vais varier, je vais donner sur le Miz et les Knights. Tiens, en plus, je bâche souvent les Knights. Je trouve que pour une fois, il était à peu près au niveau du Miz, même si ça manquait de classe, on sent quand même le mec qui n'est pas encore trop sûr de ce qu'il raconte. Et la note, par contre, je vais baisser la note, puisque... je ne suis pas super emballé par ce match-là et pas trop que ça fait un gros boulot de gomme chaud, donc je vais donner à simplement 2,5.
C'est moyen, donc 2,5 c'est moyen, on est dans la moyenne, c'est très bien. Moi, mon flop, je vais le donner à Michine, qui fait la grosse dure mais qui pleure dès qu'on lui met une petite baffe après. Qu'est-ce que c'est que ça?
Un peu de respect là, on lève la tête.
Un peu de respect. Et puis par extension, au clan de AJ Styles qui sont vraiment des gros glandeurs.
Des gros losers.
Hein. Là, ils ont quand même une opportunité qui s'offre à eux d'aller vers la Bloodline, c'est entrée réservée, toi. Tu rentres pas dans une storyline avec la Bloodline facilement. Là, on leur proposition, allez les gars, venez. Non, c'est bon.
Compliqué ce truc là, la Bloodline. Oula.
Le buffet est ouvert, vite, allez. Et puis mon top, je vais le donner. Je vais le donner à qui? Tu as un Theory et Waller. Je trouvais que ça marchait pas trop mal cette équipe. J'avais un peu peur qu'ils se neutralisent, mais finalement ça a plutôt pas mal fonctionné. Voilà, histoire de varier avec vos tops que vous avez déjà donnés, qui sont de très bons tops. Et ma note, je prends pas. Je vais donner 2,75. Voilà, hop, ça je me mets entre vous deux en sandwich. Allez, si on allait à Payback.
Ah, enfin.
C'était à Pittsburgh, hein, la ville de l'acier. La ville de l'acier. Grosse affiche, mine de rien, même si certains appellent ça un pay-per-view de deuxième zone, un plan B, puisque c'est beaucoup de matchs, finalement beaucoup de catcheurs et de catcheuses, beaucoup de superstars qui n'ont pas eu de présence de temps d'antenne à SummerSlam. Hein. C'est un petit peu les laissés pour compte de cet été. Mmh. Et bah, comme souvent, pour ce genre de pay-per-view, on croise les doigts en disant bah, on fait confiance aux superstars pour nous proposer un spectacle supérieur à la hype du pay-per-view. On verra donc si cela a une fois de plus, si la magie de la WWE a une fois de plus fonctionné. Et ça commence très fort, messieurs, avec un match en cage, un steel cage match entre Becky Lynch et la Hall of Famer Trish Stratus. Un match, eh ben, surprenant. Surprenant, puisque les filles se sont mis sur la tronche comme jamais. C'était un match très, très, très violent entre les deux filles. Elles ont tout donné. C'était vraiment cool. Évidemment, on a eu la petite visite un petit peu plus tard de Zoé Stark. Et du coup, en reprenant un petit peu mon déroulé, ça a commencé fort avec des explodeurs hein, de Becky. Trish Stratus qui place comme ça des prises de soumission, le disarmer qui est beaucoup trop tôt, ça reste dans la cage, on se balance des grosses clothesline, on commence un petit peu à s'ambiancer avec Becky qui revient, qui est dans la cage, qui fait un petit clin d'œil à Victoria, une ancienne catcheuse de la WWE, en portant une de ses prises. Ça continue, Trish qui me place un énorme bulldog là pour le compte de deux. Ça devient très très sale. On a notamment c'est Trish qui tombe sur le front. Trish qui va être défiguré. Hein,
ah oui.
Elephant Man, hein, Elephant Woman. Ça se verra à la fin du match. Elle aura des grosses bosses partout. C'était assez dur, assez costaud là pour la pauvre Trish Stratus. On a Zoé Stark qui débarque évidemment pour essayer d'aider Trish à sortir de la cage, mais Becky qui tire Trish de l'autre côté, donc c'est le supplice médiéval hein, tiré par les chevaux pour être écartelé tout simplement. Et puis Stark qui place qui referme la porte sur la tronche de Becky pour pas qu'elle puisse sortir. Mais le Man Handle Slam qui place seulement pour le compte de deux avec Zoé qui sauve une fois de plus son mentor. Becky qui se replace, qui ferme cette fois-ci la porte pour pouvoir affronter les deux en même temps. Allez, voilà, c'est Becky. Becky to belt, Becky to opponent. Merci papy. Et puis c'est le Man Handle Slam sur Zoé Stark et un super Man Handle Slam sur Trish Stratus depuis le turnbuckle. Pour la victoire, une victoire donc jusqu'au bout dans un match qui aura duré une vingtaine de minutes. Et juste après, Zoé Stark qui vient pour dire à Trish, bah écoutez, ça s'est pas passé comme prévu et tout. Mais Trish qui l'engueule et donc qui laisse présager un petit peu de tension entre la Hall of Famer et son poulain. Mission accomplie ou pas ? Est-ce que cette ouverture de show, est-ce que cet opener vous a mis dans l'ambiance ringside ?
Ouais, gros boulot de Becky Lynch là pour sortir, je trouve un gros match avec la légende Trish Stratus qui du coup là, je pense, a fait le meilleur match de sa carrière. Ouais, clairement, on y allait à reculons complètement à ce steel cage match. On avait eu un très bon match à Monday Night Raw juste la semaine avant entre Zoé Stark et Becky Lynch avec Trish Stratus aussi dans l'équation. Un false count anywhere qui a été très très impressionnant aussi. On a beaucoup critiqué la construction de la rivalité avec des segments de Trish Stratus qui étaient assez pathétiques. Je trouve qu'elles ont tout rattrapé avec là l'enchaînement des deux matchs qui ont été aussi spectaculaires l'un que l'autre. Grosse presta de Trish Stratus, un respect total. Elle termine effectivement avec une paire de couilles sur le front pour la fin de sa carrière. C'est un peu dommage.
Quelle superplace elle se bouffe hein, depuis le haut de la cage, là aussi. Hein.
Ça, elles ont fait des gros spots. On n'a pas du tout, enfin moi, je n'ai pas du tout vu les faiblesses habituelles de Trish Stratus dans le match.
Elles sont restées à l'extérieur de la cage.
Visible. Exactement. Tu laisses tes faiblesses à l'extérieur. Non, franchement, chapeau. Du coup, gros gros chapeau à Becky Lynch qui voilà, qui impose son statut de méga star de la WWE et qui nous prouve qu'elle peut faire, qu'elle peut catcher qu'un balai maintenant. Donc j'ai respect total. Moi j'étais complètement bluffé par cette fin de rivalité qui partait quand même de très très loin. Sachant que je suis pas du tout un fan de Trish Stratus, voilà, non, je suis bluffé.
Bon, elle a perdu des fans, hein, façon sur la route, Trish Stratus, ouais, avec cette rivalité. Papy, toi, t'étais fan de la première heure, fan un jour, fan toujours?
Non, au contraire, j'ai peut-être gagné un fan avec ce match-là finalement.
Les en deux.
Non, mais effectivement, le match, c'est un des plus réussis de la soirée. Je le dis tout de suite. Grosse réussite à Becky qui est tout opponent, c'est aussi tout match super bien réussi de suite. Elle a la grosse forme Becky Lynch, comme quoi elle avait été un petit peu chauffée en mode elle avait été écartée du dernier SummerSlam, et puis finalement elle a montré qu'elle en avait encore sous la réserve et que globalement, heureusement qu'elle est là pour gérer un peu les filles. Je pense que la stipulation pallier beaucoup les difficultés de Trish dans le ring, en fait, finalement, parce que au final, c'est le match en cage, c'est vraiment du brawler, et puis tu fais un petit peu de force physique et un escalador en descendant. Et là-dessus, je pense qu'au niveau condition physique, Trish Stratus, il n'y a pas de souci, quoi. C'est plus au niveau qualité
des rings. Elle a bien tenu le cochon pendu là pendant 2 minutes. Hein,
ouais. Elle avait vraiment la bonne forme. Et donc, c'était un match fort, fort réussi. Et juste pour compléter ce que tu disais hier, en ouverture, il y a plus que de l'eau dans le gaz entre Trish et Zoé, puisque Zoé balance comme son finisher son Trish pour finir la séquence. Donc là, c'est séparation actée.
Mais oui. Là, c'est vrai que là, ça va être dur de retourner en arrière. Mais on a déjà vu des gens se rabibocher, même après.
je crois que là, elles sont fâchées quand même pour un moment.
Ah ouais.
oui, il y aura débat sur la garde des enfants. Mais... Zoé Stark. Bien voir la tête des enfants. Ouais. Zoé Stark, l'autre grande gagnante de cette rivalité à trois.
Hein. Oh oui.
Elle a épaté du monde.
Oui. En septembre, c'est le mois des naissances, hein, des nouvelles superstars qui vont nous accompagner. Donc, est-ce que Zoé Stark fera partie de cette nouvelle génération de superstars que vous applaudirez, pourquoi pas? On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, les trois femmes nous ont proposé un super spectacle. C'était vraiment effectivement un super opener, une énorme surprise, et comme tu l'as dit ringside, la preuve que Becky Lynch peut porter ce statut de méga star de la reine de la division féminine à la WWE. Un ancien roi, un ancien patron, John Cena, voilà, et là pour nous accueillir. Je me dis, attends, le mec est censé être le host de la soirée, il était même pas là pour l'ouverture. Il arrive, il était en retard. Il était à la bourre.
Ça roule mal à Pittsburgh. Hein.
Ça roule.
Moi, j'ai habité 6 mois. Je peux vous dire que c'est compliqué.
T'as passé 6 mois dans ta bagnole.
Ouais, c'est ça.
Trouver la bonne bretelle pour sortir. C'est rien que
ça. C'est à cause des pistes cyclables. Il y en a partout. C'est un bordel.
Mais on préfère les autoroutes à 16 voies. C'est le bordel de pistes cyclables. John Cena, il a fini par pouvoir garer sa bicyclette, son Vélib, il arrive, et puis il vient un petit peu nous ambiancer, et puis surtout, il a réfléchi à ce qu'il allait faire, toi. sur le chemin, j'ai réfléchi à ce qu'il allait faire. Il faut rendre la soirée un petit peu spéciale, et du coup, la soirée spéciale, le petit surprise, c'est qu'il va être l'arbitre, il se nomme arbitre pour le match entre LA Knight et le Miz. Le Miz n'est pas content, il débarque, il dit que c'est le bordel, moi j'ai de l'expérience en tant qu'animateur de soirée à Roubaix, et à Maubeuge, voilà, à MJC de Maubeuge, qu'est-ce que tu me racontes là? Moi, je vais pouvoir te montrer, toi t'es un gros naze. Je dis, donne-moi des conseils. Donc voilà, il écoute, hein, humble John Cena, hein, voilà, ça fait partie de sa vision de vie, un petit peu son mode de vie, il est très très humble, John Cena, évidemment. Et puis, donc, il dit, tu vas commencer à lui placer. Déjà, premier conseil, déjà, faut pas jouer dans des films de Barbie déguisés en sirène. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ont vu Barbie, John Cena fait une apparition déguisée en sirène. Moi, ça m'a surpris, hein. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à aller voir le film déjà une première fois. Et puis, je me suis dit, oula, vache. Je me suis dit, quel vortex, là. Bref, ça s'embrouille entre les deux. Et puis ça se compare à des Teletubbies et compagnie. Et puis ça se fait des yes, ça se fait des no. Et puis il y a un technicien donc, qui apporte le t-shirt de d'arbitre à John Cena, de vendeur de foot le kir à John Cena. Et puis c'est parti. C'est parti. Ringside, papy, vous êtes prêts? Le Miz versus LA Knight. Yeah. Effectivement, un match très attendu. Un match très classique. Hein. C'est le Miz. C'est LA Knight entre les cordes. Il ne va pas se passer de la folie. La folie, c'est John Cena hein, qui essaye un petit peu d'arbitrer. Alors, c'est pas facile hein, d'arbitrer côté John Cena. Mais surtout, on raconte une petite histoire, c'est que John Cena, il s'impose. C'est un arbitre impliqué. C'est un arbitre impliqué. On en connaît tous hein, dans tous les sports, dans le foot, dans le rugby, des arbitres qui veulent parfois voler le show. Hein. Et voilà, c'est pas John Cena, c'est un petit peu ce qu'il a fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des tentatives de fraude, bah, Cena était vigoureux, quoi. Physique. Hein, physique. Voilà, le Miz essaie de faire un tombé en se tenant avec la corde, hop, il le repousse avec le bras, ça cherche un petit peu, LA Knight, voilà, ça se coince un petit peu, plus de 5 secondes, hop, ça cherche des noises, donc le Miz un coup, même LA Knight, hein, LA Knight cherche des embrouilles, ça se chauffe entre les deux, tout le monde se démarre un petit peu, et puis LA Knight qui se bouffe le Skull Crushing Finally, mais jusqu'au compte de 2, ça résiste. Miz qui provoque un petit peu John Cena en faisant le Five Knuckle Shuffle, mais il se fait bloquer par un body slam, la descente du coude, le BFT, donc le finisher hein, de LA Knight. Je sais même plus ce que ça veut dire BFT. Quelqu'un sait? Si vous savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, voilà, vache.
Par rapport aux spécialistes du catch, tout, bravo.
Voilà, voilà, surtout si vous faites organiser des soirées Trivial Pursuit avec Papy, on s'amuse. Et puis après, voilà, un petit peu, voilà, ça fait jaser sur le Discord ce qui s'est passé derrière la célébration avec LA Knight et John Cena qui sont un petit face à face, et puis Cena qui l'invite à serrer la main et LA Knight qui cherche encore l'embrouille. Qui commence à me débarrer, je sais pas, il baragouille des trucs. Et si là, mais qu'est-ce qui se passe, ce mec accepte, tu fais adouber devant tout le monde là par un Future of Famer, c'est bon quoi. Je fais bon, d'accord, il lève la main et c'est comme ça que ça se termine, messieurs. LA Knight, le Miz, une des rivalités un petit peu chaudes en weekly. Est-ce que en pay-per-view, ça a la même saveur, papy?
Ah, est-ce que ça a une saveur?
Est-ce que ça serait du bien entre les cordes?
Ils ont tout fait en tout cas pour que ça ait de la saveur, hein, avec finalement le petit sketch Miz aussi là qui est un peu un opener du match d'LA Knight. Les artistes qui font les arts en première, c'est ça? Les premières parties, c'est ça, première partie du match d'LA Knight contre le Miz. Donc il y a un peu, et ce qui est bien parce qu'en plus, généralement, le deuxième match de la carte, c'est celui qui est souvent considéré comme la place de merde. Donc du coup, avoir eu cette petite introduction comique avec le Miz et Cena qui ont assuré comme pas possible, ils auront cabotiné. On voit les vieux copains là, ils se connaissent par cœur, ils se sont envoyés des fions dans la face assez facilement et ça a plutôt bien marché. Et après le match, comme je disais, ça a permis à LA Knight d'être la star. Le match en lui-même, je ne pense pas, parce que c'était j'ai pas trouvé ça terrible et je pense que le fait que Cena soit arbitre, ça n'a pas aidé les deux à catcher parce que du coup, c'était soit à contre-temps ces interventions et le fait qu'il, comme tu le disais, qu'il pousse un peu tout le team. En tout cas, les Knights en sort grandi avec une victoire. Le serrage de paluche de Sun Cena. Miz et Cena ont jobé pour lui ce soir. Je pense que c'est déjà énorme. Suffisamment important pour lui en termes de soirée.
Ouais, c'est ça, les mots sont forts, là. Attention, les mots choisis par Papy sont forts. Cena et le Miz ont jobé pour LA Knight ringside.
Ouais. John Cena qui est venu essayer d'aspirer un petit peu la pop de LA Knight, hein, voilà, il sait où se placer hein, pour son retour. C'est pas la première fois hein, qu'il va pas hésiter à aspirer la popularité d'une nouvelle star en essence.
A-t-il assez de souffle pour aspirer la popularité?
Il se fait vieux, hein, tes poumons. Ouais. Alors, j'ai réfléchi très fort. Ah. Et je me souviens maintenant, BFT, c'est Blunt Force Trauma. M'est revenu comme ça, comme une illumination.
C'est complètement con. Hein, que ça...
Ouais, je pense que j'aurais jamais trouvé tout seul. Mais, bon. Je vois pas du tout le rapport avec ta saucisse, mais on sait pas. Ouais, moi je serais moins dur que Papy. Je trouve que le match était pas mal à l'ancienne. Le mise dans ses œuvres. Moi j'aime bien le catch d'Ellen Knight. Je trouve qu'il a pas botché ce soir, donc c'est plutôt pas mal. C'était rythmé. C'était peut-être un poil long. Voilà, les interférences de John Cena. C'est sûr que ça aide pas à faire un grand match avec plein de dramaturgie, mais bon, voilà, il y a des petits rebondissements. John Cena, malgré toutes ses interventions, parce que moi, je regarde la All Elite Wrestling, hein, le payback était coincé entre deux gros pay-per-view, dont le plus grand pay-per-view de tous les temps.
On n'est pas là pour parler de
coincé.
Ça.
Voilà, mais c'est juste pour dire que même avec toutes ces interventions, John Cena n'est pas aussi casse-couille que Aubrey Edwards, l'arbitre de la
Wrestling. Ah, c'est le centre de la caméra.
Mmh. Ah oui. Il était presque invisible à mes yeux. Voilà, ça s'est terminé. Alors le seul truc, c'est la petite altercation en toute fin avec qui n'avait pas l'air d'être très préparé avec Ellie Knight qui a fait un petit peu n'importe quoi. Hein. D'abord, il était... John Cena est venu se mettre en face de sa gueule, il lui a serré la main, puis après, il a recherché la merde. C'était, voilà, mettez-vous d'accord hein, si vous voulez faire un truc ou l'autre. Ça sentait... Effectivement, peut-être que John Cena est vraiment arrivé en retard et qu'ils n'avaient rien préparé, qu'ils ont fait tout dans l'impro. Alors, avec le Miz, ça passe bien, mais peut-être qu'Ellie Knight, il n'est pas encore au courant de tout, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, dans la rivalité entre le Miz et les Knights. Alors on a eu un Miz qui était quand même qui a dépassé toutes les espérances hein, dans les promos, dans les rivalités. Donc c'est peut-être même un peu court, je trouve, si ça s'abrège maintenant. Mais bon, en tout cas, moi j'ai trouvé le match super chouette et puis ça a continué à mettre dans l'ambiance avec John Cena. En plus, ça a ramené le Star Power. Donc on était bien là à ce moment donné dans le pay-per-view.
Est-ce qu'on va toujours être bien avec notre première défense de titre oui, tout à fait, de la soirée, le titre US. Qu'on avait oublié effectivement à SummerSlam. Hein. Donc voilà, Rey Mysterio qui affronte donc Austin Theory. Ça commence avec une grosse clothesline hein, sur Rey Mysterio. La petite souplesse, c'était contré, petit paquet, ça ne passe pas. On a eu notamment Ray qui est en balancé là dans le coin après avec Theory qui essaye de lui retirer le masque. Il faut qu'ils arrêtent. Hein. Ça fait 20 ans qu'on essaye de retirer le masque de Ray Mysterio. Si Ray Mysterio ne veut pas qu'on lui retire le masque, eh ben le masque ne sera pas retiré. Le moonsault sur Theory. Les deux hommes sont un petit peu sonnés, on se balance des DDT, sliding tornado DDT là, qui est placé par Rey Mysterio. Le torture rack powerbomb de Theory, c'était pas mal du tout ça. Son finisher qui ne passe pas. Rey qui revient un petit peu avec un énorme dropkick là, hein, à la verticale, un basement dropkick là, sans élan. Le 619 qui passe, étonnamment, hein, facilement, hein, on n'est plus trop habitué. Et puis bah, derrière par contre le splash directement dans les genoux hein, c'est le gros plaquage à la piscine municipale. 8 and down qui est placé, mais c'est renversé, joli renversement par Rey Mysterio pour un petit paquet, un petit contre pour une victoire en moins de 10 minutes de Rey Mysterio qui sûrement on voit aussi une théorie un petit peu en dehors de la title picture du titre US là, hein. À ce moment-là.
10 minutes douche comprise, ouais. On va dire, ouais. Pour Rey Mysterio. J'ai tourné la tête, j'ai pas vu le finish, hein, je dois avouer. Le match était fort sympathique, oui. Ça a été très vite, ça roule bien entre les deux. On en aurait bien pris une petite louche. Austin Theory, donc, il n'arrivera pas à remettre la main sur le titre US, c'est Rey Mysterio qui conserve la ceinture. Peut-être pour un face-à-face avec son fils, qui est champion de son côté aussi. Je ne sais pas, les Mysterio aiment l'or. Mais bon, c'était sympa, sans grand intérêt supplémentaire. Voilà, Austin Theory va partir sur autre chose, je suppose.
Oui, bon, moi j'ai ma petite idée. Je pense qu'il a des plus grandes choses quand même.
C'était qu'un passage, ce titre US, finalement.
Oui. Voilà. Bon, papy, un simple passage pour Austin Theory, finalement, une défaite qui pourrait être une victoire. En tout cas, son regard à la fin du match, on disait long sur ses ambitions. Il n'est pas l'air content du tout d'être fait piéger par le, le vétéran, le fameux Rey Mysterio. Je suis un peu comme Rick Saint, j'ai pas trouvé le match mauvais. Par contre, il a pas vraiment retenu toute mon attention. Je parlais tout à l'heure du deuxième match à la carte qui était parfois celui qui où ça retombait, où tu étais moins attentif. Bah, du coup, c'est celui-là qui s'est pris cette place-là, en fait, même si c'était le troisième. Mais vu qu'on venait d'avoir deux gros matchs avec beaucoup de scénarios, finalement, bah, celui-là, qui était un classique, bah, il n'a pas retenu non plus trop mon attention. Ouais, donc, pas grand-chose à dire là-dessus.
Oui, un match assez générique. Quoi. Un match de weekly, un main event de weekly, peut-être.
Ouais, voilà.
Voilà. Il en faut. Pour respirer un petit
peu. Mais ça marche entre les deux. On sera
content. Mais oui, c'est comme 10 minutes plaisantes qui passent toutes seules. Toi, tu te poses pas de questions en regardant ce genre de match.
Très cool.
Par contre, derrière, c'est le bordel. Ah, ça va être le bordel. Oh là là, ça va être le bordel, puisque c'est la défense de titre de Sami et Kevin face au Judgment Day pour le titre tag team. Et là, il va y avoir du grabuge. Puisqu'on était, alors si je me trompe pas, c'était un Steel City.
Pittsburgh Steel City Street Fight Match.
Voilà.
Je dis le trait, hein, mais.
Oh là là, quel
le mec talent. Aurait pu dire n'importe quoi. Oui, mais d'accord, c'est ça. Énorme. Et puis voilà, un match qui va être à la hauteur de cette stipulation. Un match qui part dans la folie et la violence. On pourrait même dire un match. Ouais, on n'avait pas vu tel match depuis un bon bout de temps. C'est ce que la réflexion que je me suis faite à la fin. C'est donc Finn Balor et Damien Priest qui représentent le Judgment Day. Évidemment, on a sorti les armes assez rapidement, les kendo sticks qui sont sortis. Ça se met des gros coups de kendo stick. La poubelle aussi qui est sortie. Finalement, ce sera un peu lui, hein, le match hommage à Terry Funk. Il faut l'avouer. Ouais. Il faut le dire
aussi.
Oui, ça sert
à voler du coup mon analyse. Bravo.
Ouais, ouais. Ouais, voilà. Allez, voilà. Le mec qui est censé faire juste le play-by-play, en fait, il pique les avis des autres, et voilà. Ça se retrouve avec des poubelles sur la tête. Voilà. D'ailleurs, un peu plus tard, je crois qu'il y a eu un moment où Sami Zayn a vraiment failli se retrouver avec la tête dans la poubelle en pleine course. C'était assez bon. C'est le gros bordel, on a des coups de chaise aussi, là, Balor qui... Enfin, Kevin Owens hein, qui sort les chaises, je crois, mais Kevin Owens, les chaises souvent se retournent contre lui, mais là, non, je crois.
Qui s'est bouffé je crois que c'est Finn Balor, je crois, non
qui Finn Balor qui s'est bouffé les chaises écrabouillées là, sur les chaises, qui sont qui ont explosé à Pittsburgh, assez incroyable. Le match continue à l'extérieur. Complètement fou, alors que Dominic Mysterio est là pour aider Judgment Day, l'homme de main, qui se sacrifie hein, ce soir, il va se sacrifier tout simplement, avec Sami Zayn et Kevin Owens qui sont balancés dans la zone technique, hein, la zone technique dans les gradins, là, au pied des gradins. Ils disparaissent, pensant à Judgment Day, commence un peu à poser une stratégie, quand soudain Kevin Owens, qui est ensanglanté à ce moment-là, il s'est pris un énorme coup. Il finira la tête en sang, hein, avec le staff médical qui, à plusieurs moments, voilà, il sera un petit peu hors caméra pour effacer tout ça. On n'est pas là, Idob, hein, ici, pas déconner. Et ils sont ressortis habillés, grimés, en joueurs de hockey des Pittsburgh, les pingouins de Pittsburgh. Voilà, il n'en fallait pas plus hein, pour faire sauter le toit de l'arène. C'est le gros bordel. Le Dominique, alors, il se fait rouler dessus. Voilà, la grosse fessée. Prise qui se retrouve dans les marches en fer, la Blue Thunderdome sur la pile de chaises dont on parlait tout à l'heure, ringside, c'est ça, ouais, c'est la Blue Thunderdome de Sami Zayn sur Finn Balor, magnifique, des chaises qui explosent dans tous les sens, Kevin Owens qui est obligé d'affronter un petit peu tout ce beau monde dans la foule, Sami Zayn qui vient pour aider un petit peu son vieux poteau. Dominic est placé sur une table et c'est la Swanton Bomb, qui est lancée depuis le balcon, filmé en plus par un caméraman qui était juste en dessous, donc c'est l'envolée de Kevin Owens qui ne retombera jamais, hein. Il s'en va.
Non.
Voilà,
on l'attend toujours.
Il vole toujours. Son corps est tombé, mais son âme est encore en lévitation. Il s'en regarde et dit, qu'est-ce que je suis en train de faire, le con. Et il s'écrase lourdement.
Il a dû se faire bien mal au cul quand même.
Il a failli louper la table quand même. Hein.
Ah ouais. Un peu la tête sur la table. Le coccyx brisé en deux. Hein,
voilà. Ouais.
plus de coccyx. On ne reverra plus. Si, mais si, j'allais dire en plus.
Mais si, attends, on reverra tout le monde.
C'est ce qui est n'importe quoi. Voilà, on passe à la Twilight Zone. C'est le bordel. On a JD McDonagh qui vient un petit peu en plus prêter main forte.
Sauver le du tombé, hein.
Ouais, en retirant Sami Zayn qui avait placé un elbow kick sur Damien Priest.
Après un stunner.
Ouais, le double finisher. Tu as raison, mais l'autre Irlandais est là. La power bomb sur McDonagh à travers la table des commentateurs. Et alors là, incroyable, sortie de nulle part, Rhea Ripley qui arrive en courant et qui fait un spear sur Kevin Owens à travers la barrière d'insécurité. Mais c'était fantastique, fabuleux, on n'en avait pas vu venir, c'était complètement dingue. Le drop shotgun drop kick de Finn Balor sur Sami Zayn, on dit mais c'est pas possible, ils vont y arriver, le coup de grâce, mais ça passe pas. Cette fois-ci, le love kick passe, mais seulement avec la Dominique Dom Dom, Dirty Dom, qui voilà, il a l'habitude, il sert ici à s'évader de prison, bah là il arrive à s'évader de la table brisée dans laquelle il s'était retrouvé, et il vient sauver son poteau d'un coup de mallette, et ouais, la fameuse mallette, et la victoire, 1, 2, 3, Finn Balor et Damien Priest sont vos nouveaux champions unifiés, indisputés de la WWE. Le jeu du nombre a réussi, comme on dit en anglais, et surtout le Judgment Day, accompagné de JD McDonagh qui s'est sacrifié, a réussi à suffisamment s'entendre dans un match, mais complètement bordélique. C'était le chaos le plus total à ringside.
Ah oui, bah, c'était le blockbuster façon WWE avec du spectacle en voiture, voilà. Bah, Kevin Owens, Sami Zayn, ils sont trop forts, hein, en vérité. On leur a donné carte blanche, ben, du coup on a eu la Swanton de folie, le Sami Zayn en roue libre qui nous fait tout ce qu'il faut, le Judgment Day, ils ont bouffé comme ils devaient bouffer, il y avait Dominique qui était là, le passage effectivement de l'arrivée de Rhea Ripley out of nowhere, c'était le petit gâteau, la petite cerise sur le gâteau plutôt, voilà, rien à redire, c'était absolument parfait. La victoire du Judgment Day que beaucoup attendaient, moi personnellement que je n'attendais plus, mais voilà, elle est arrivée, elle est là.
Et le jour où tu votes pas pour Finn Balor, bah boum.
Exactement, ce traître de Finn Balor qui foutra toujours dans la même merde sur les pronos. Mais vraiment gros spectacle. Voilà, moi j'aime bien quand on donne du temps et des largesses à Kevin Owens et Sami Zayn, parce que c'est quand même deux des plus grands catcheurs de leur époque. Ils l'ont encore prouvé ce soir. Et puis le Judgment Day est là pour durer. Le Judgment Day est là pour briller, pour avoir les statures, pour dominer. Donc tout est bien qui finit bien. Voilà, je pense que c'est un des matchs de l'année, ce truc-là. Hein. C'était vraiment exceptionnel.
Hein. Mais mettez-le dans votre petit tableur hein, pour les Catch Up Awards. Hein, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Papy, est-ce qu'il va y avoir une petite place pour les Catch Up Awards, là, ce match ?
Ah oui, très certainement. Là, c'est très très haut niveau. Très très au-dessus du reste de la carte, et un peu comme pour Becky, finalement, on se rend compte que, comme le disait Ringside, quand tu as des mecs comme Kevin Owens et Sami Zayn, et que bah, ils n'étaient pas SummerSlam de mémoire, et puis là ils se retrouvent du coup dans ce show-là, puis bah, du coup ils te volent un peu la vedette, hein. c'est les méga stars, et puis bah, ils sont très très au-dessus du reste du roster, donc du coup, super match, de l'overbooking, mais comme on l'aime, avec bah, des. Qui est du coup totalement adapté à cette stipulation extrême. Ils ont tous bouffé plus ou moins violemment. Kevin Owens a bien bien bouffé entre ce qu'il se faisait lui-même et ce que lui faisaient les autres. JD McDonagh là, qui a même pas réussi à passer à travers la table des commentateurs, il a rebondi dessus, et il s'est retrouvé étalé comme une merde par terre.
Donc, c'est les cruiserweight ça.
Les cruiserweight, ils passent pas à travers les tables, c'est compliqué. Et puis ouais, Rhea qui nous fait un magnifique spear. Alors sur le coup, j'ai cru que c'était vraiment blessé, mais non, je pense qu'elle en rajoute des caisses. Et donc ouais, gros match, gros spectacle, gros plaisir. Pouf. Que demander de plus, si ce n'est peut-être que c'est le genre de match qui aurait pu être en main event finalement, hein, ouais. Du niveau.
Et oui, parce que ça se termine pas là. Là, on pourrait dire qu'on peut éteindre notre télé finalement. Ça aurait été
T'es rassasié.
Ça aurait suffi. Eh ben non. On bascule un peu dans une deuxième partie de soirée à ce moment-là. On a le Grayson Waller Effect avec Cody Rhodes qui était l'invité qui parlait de.
Aïe.
On a parlé de rien du tout, en fait. On a parlé de rien du tout.
Voilà, de quoi tu veux qu'on parle, il fait rien, Cody.
Ah oui.
Qui se lance dans une rivalité, qui se trouve un ennemi déjà avant de venir prendre du temps d'antenne dans un pay-per-view.
Il était promu quand même, Cody, là. Attention, général manager d'Euro. Hein.
Voilà, et tu as raison, parce que tout simplement, il est, voilà, il gère les RH. Il gère les RH et les contrats. Si vous avez des problèmes avec boutique et resto, envoyez un petit email à cody@www.hr.com. Effectivement, Cody est surtout là pour nous annoncer l'arrivée dans le roster d'Euro d'une méga superstar. Main Event, Jey Uso, voilà, qui avait quitté la WWE, hein, je vous rappelle, il y a deux semaines, et qui vient donc pour foutre le bordel dans le show rouge, et puis qui va super kicker au passage Grayson Waller, et qui prend un énorme bain de foule. Ça marche bien, hein, son truc là de la vague, là où il fait avec le public. Je pense que ça, voilà, il aura au moins ça pour à la base, voilà, pour le supporter. Bon, bah Cody Rhodes, voilà, effectivement, qui gère un petit peu les contrats, les fiches de paye.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est l'expérience, le temps libre, voilà.
Les formations en interne.
C'est comme le forçage de nous mettre Cody Rhodes sur la carte, alors que est-ce qu'il y en avait besoin ? Je ne pense pas. Et en plus, ils ont quand même un host spécial pour le show. Et ce segment-là, il est hasard à Cody Rhodes, quoi. Enfin, c'était typiquement le genre de truc où tu aurais pu, où Sinor aurait pu dire, bah tiens, justement, je suis là pour vous apporter des surprises, et ben voilà une, pouf, et ça marchait tout seul, en fait. Mais là, nous foutre Cody Rhodes
Enfin bon. Il est prévu qu'il catch à un moment donné là dans les semaines qui viennent, parce qu'il est peut-être blessé, tout simplement, Cody, parce que je vois pas sinon. Pourquoi il y aurait juste un petit coucou comme ça.
C'est blessé contre Lesnar. C'est vrai que c'est. Enfin, moi, j'ai pas vraiment aimé. Pas vraiment aimé du tout, quoi. Ça me fatigue un peu ces histoires.
Bah, c'est Jey qui sauve le truc un peu quand même, parce qu'il est.
Oui, Jey marche bien.
Il est quand même super populaire. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner à Monday Nitro. Est-ce qu'ils vont tout donner pour mettre encore plus over Jey? Est-ce que ça va devenir la star de Monday Nitro justement en piquant la place de Cody? Je sais pas, je suis intrigué. Moi, ça me fait plaisir de voir Jey revenir comme ça avec le gros spot sur lui, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est plutôt un genre de truc qu'on préférerait voir en weekly qu'au milieu d'un pay-per-view, quoi.
Ouais, effectivement. Ouais, c'était un beau gros forçage en règle. Surtout, il avait eu son moment, il avait eu quelque chose à SummerSlam, lui, qu'est-ce qu'il vient gratter là. C'est le pay-per-view des laissés pour compte, et le mec, il arrive quand même à gratter, quoi. En même temps, ben voilà, hein, il était sur l'affiche. Hein. Ça vend des billets.
Est-ce qu'on est sûr de ça que ça vend des billets? Moi, je suis pas convaincu.
Oh, bah, ça coïncide avec son retour, l'explosion de la WWE. Donc, par extension, la conclusion, c'est qu'il vend. Hein. Mais il vendait beaucoup.
Vous croyez vraiment que des gens se disent, tiens, je vais regarder parce qu'il y a Grayson Waller avec Cody Rhodes au micro?
Ouais. Après, c'est chaud parce qu'il n'y avait, pas Roman Reigns. Le Star Power, il était à la SEBA, quoi. On a rajouté John Cena à la dernière minute, mais ça, je pense pas qu'il était sur les affiches. Je pense pas que les gens qui ont acheté leur billet, ils savaient qu'il y aurait John Cena. C'est quand même un gros vendeur, Cody, mine de rien. Quand il était à la ROH et tout ça, ils ont jamais eu d'aussi grosses recettes et d'entrée que quand il était là.
Oui,
il
a quand même
ROH. Monsieur,
vous vous égarez.
On vend. Je te dis, le boom, ça coïncide avec son retour. Donc.
Bah, en tout cas,
tu peux que tirer de cette conclusion, en fait, même si c'est pas scientifique, mais bon.
Là, ils l'ont mis, donc on peut pas leur dire que ça marche même sans lui. Du coup, puisqu'ils l'ont mis.
Il faudra essayer un pay-per-view sans lui pour voir ce que ça donne. Mais bon, là maintenant ils sont tellement, ils marchent sur l'eau, la WWE. Donc,
Je suis sûr que tout passe. Hein.
Là on est pour un moment, on est bien calé, je pense.
Bon, un match de 18 minutes entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez, est-ce que ça passe?
Alors ça, s'ils veulent tuer leur momentum, il faut qu'ils réitèrent cette expérience.
Il y a des choses à boire et à manger. Donc un gros match de powerhouse déjà, hein, rien que ça. C'est quand même une affiche originale, il faut le dire. Faut dire. ce que j'ai apprécié. Mais mon Dieu, que c'était long, que ça tirait en longueur. Je veux dire, moi, j'ai l'impression d'être dans une boucle. Parce que j'ai l'impression de voir deux fois le même match, en fait, pendant le match. C'est-à-dire qu'il y avait des séquences identiques qui se déroulaient entre les filles, et même des commentaires identiques, notamment de Corey Graves, qui par deux fois nous balançait les mêmes répliques, les mêmes expressions. Alors je sais que des fois, ils ont un petit peu leurs petites expressions favoris, des fois qu'ils utilisent à tort et à travers, mais alors là, je me suis dit, mais attends, tu appuies sur la télécommande sans faire gaffe. Ben non. Donc effectivement, bon, après voilà, c'était un match de powerhouse entre les deux, qui se sont mis des grosses close lines, on se teste au début, un test de puissance, qui va pouvoir soulever qui. Déjà, ni personne à catch-up ne peut prétendre pouvoir soulever Rhea Ripley ou Raquel Rodriguez. Donc,
un ou deux shots de vodka, je pense.
Et en tout cas, il va tenter, c'est sûr.
je veux bien essayer. Et puis voilà, des grosses close lines, des coups de boule dans la tronche, des gros coups de genoux, des gros coups pour s'allonger tout simplement. Et puis le genou le genou blessé, hein, c'est un petit peu l'histoire aussi qui était racontée de Raquel Rodriguez, que Rhea Ripley va se focaliser dessus. On a un énorme power slam de Raquel Rodriguez sur Rhea Ripley, mais Rhea Ripley qui réatterrit et qui en profite derrière pour placer une énorme power bomb contre le coin du ring avec Dominique Mysterio, hein, qui était aussi dans les parages. Derrière le running power slam de Raquel Rodriguez, Rhea Ripley qui met un énorme coup sur son genou et qui place donc le Riptide derrière. 1, 2, 3, victoire, match de 18 minutes. Hein, voilà, je vous ai dit, c'est un match qui était très très long. À ce moment-là, je me dis, mais attends, ils sont en avance, toi. Je sais pas, c'était assez bizarre. Ce match était vraiment très très long. Moi, je vais vous l'avouer, j'ai quand même bien aimé. Mais pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est presque le mieux. Alors, il y a eu l'opener, donc ça ne tient pas à la comparaison, ça c'est clair, avec l'opener. Mais franchement, avec tout ce qu'on se tape depuis ces derniers mois, c'était presque la meilleure chose qu'ils pouvaient nous offrir dans la division féminine, avec enfin Rhea Ripley qui défend son titre, et enfin Raquel Rodriguez qui a l'occasion, on va dire, de montrer ce qu'elle a. Après, elle est super green, donc donner un match de 18 minutes à une rookie, je ne sais pas si c'était une bonne idée, papy.
C'était un pari, mais je pense que tu as résumé un peu le sujet, en fait. C'est que c'est tellement le néant autour de Rhea Ripley là, depuis des mois, et comme Becky était largement occupée à autre chose, et que du coup, ils ont dû mettre quelqu'un en face qui ait l'air enfin d'être capable de tenir un peu contre Rhea, parce qu'on se souvient des derniers weekly où Rhea Ripley a plié à peu près tout ce qui restait de roster féminin en moins de 2 minutes à chaque fois. Là, ils lui mettent quelqu'un qui va résister, qui va même forcer l'intervention de Dominique pour aider Rhea à gagner. Donc, je pense qu'ils ont juste placé Raquel sur la carte en disant, elle, c'est une fille de valeur, c'est la deuxième plus forte du roster, quoi. Si je résume un peu. Et je le vois dans ce sens-là. Alors après, oui, il y avait des longueurs. C'est pas super passionnant. Alors c'est peut-être aussi un test pour Raquel c'est à la fois vis-à-vis du public pour la monter en haut et à la fois vis-à-vis de la WWE pour la tester en se disant pour l'instant elle a juste fait de la tag team et quelques matchs en bois en solo. Est-ce qu'elle a vraiment ce qu'il faut pour qu'être quelqu'un sur qui on mise? C'était un test pour elle. Moi je trouve que ça n'est pas si mal sorti que ça. Je trouve de manière générale que Raquel est trop green. Là je l'ai pas trop senti sur ce match-là. Donc je pense que c'est un test réussi, puis que ça donne enfin un petit peu de contenu au règne de Rhea depuis sa prise de titre.
Papa Triple H est content d'après toi, Ringside?
Il est toujours content lui, je pense. Avec un pognon qui se fait. Moi je serais plus sévère. Hein. J'ai bien aimé l'outfit de Rhea Ripley, qui est apparemment un petit hommage à Shayna. Shayna. Mais sinon le reste c'est 3 minutes de moins seulement que le match du Judgment Day de Kevin Owens et Sami Zayn. Ça explique, je pense, les longueurs quand même. Hein.
Il se passe un peu moins de choses quand même.
Ben voilà, Raquel, pour moi, elle m'a pas convaincu. J'aime pas du tout en fait Raquel Rodriguez. Voilà, un match de powerhouse, tu fais 5 minutes, 2, 3 gros power moves justement, et puis il y en a un qui se blesse, et puis ça se termine là, quoi. Il y en a un qui prend le dessus, et puis voilà, c'est réglé. Là, c'était vraiment très très long. Voilà, je suis pas sûr que ça a servi à régler à Ripley, ça sera pas encore là son match référence. Je me suis vraiment ennuyé pendant ce match-là. C'était difficile. Et puis effectivement, les commentaires ont pas aidé. Ils étaient loin d'être en grande forme, hein, toute la team.
Ouais, il y a eu pas mal de
regrets et compagnie
pendant ce match au niveau des commentaires. Et puis la façon dont ils essayaient de vendre Raquel Rodriguez, à la fois underdog mais en powerhouse, c'était bancal en fait. Tout était bancal.
Ça n'est pas la route. Puis on savait bien qu'elle allait perdre de toute façon. c'était compliqué.
John Cena a fait le clown avec un petit de papillon rose. Il a un petit peu démarré.
T'es en Byron Saxton.
Oh. Ah oui, il est en Byron Saxton, effectivement. Et puis il veut discuter avec. Il tape la discute avec Judgment Day, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et puis est-ce qu'ils vont faire la teuf? Parce que voilà, ça termine. Le plus important, quand même, c'est qu'après ce match de Rhea Ripley, il se termine le pay-per-view tous couverts d'or.
Ouais, Judgment
Day. Et ça, la Golden Prophecy.
Allez. Par contre, je me disais, Rhea Ripley, il faut qu'elle fasse gaffe à la patrouille quand même. Hein. J'ai l'impression que le physique, c'est pas totalement naturel. Hein. Je ferai attention quand même.
Oh, les accusations.
On n'accuse pas les gens quand même.
C'est l'amour qui fait ça.
On a dit qu'on arrêtait.
C'est le succès qui rend beau.
Ah oui.
Oui, à côté.
À ta place, je ferai gaffe quand même.
Voilà.
Hein, tu es prévenu, Rhea.
Docteur Ringside, c'est pas net.
Le docteur des stars. Voilà. Il a vécu 6 mois à Pittsburgh, je vous le rappelle, qui codait un petit peu.
Je sais comment que ça se passe.
Voilà, exactement. Il en a réparé des carrosseries là-bas. Il sait ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et bien, on arrive tout doucement, mais tranquillement, à notre main event. Nakamura.
Le dream match.
Le dream match, ouais. Je me méfie maintenant des dream match avec Nakamura qu'on nous survend là. Bon, en tout cas, on peut pas leur reprocher. Ils ont réussi à faire du bon boulot, à nous booker quand même cette rivalité en 2 semaines avec un Nakamura qui a retrouvé sa langue natale et puis qui nous raconte une petite histoire sympa sur ce dos de cette Rollins. Il a filé la métaphore du dos brisé de cette Rollins tout au long de ses précédents weekly. Et donc, on arrive avec un Nakamura qui peut prétendre éventuellement réussir à, sur un malentendu, à allonger notre bon vieux Seth Rollins qui ne veut pas lâcher sa ceinture, dis donc, il veut la garder. Le match commence donc avec une petite animation en japonais. On en avait parlé. Bah oui, c'est bien que Ringside soit là.
Il
avait interpellé. Papy, tu voulais poser une question à Ringside?
Mais oui, on se demandait ce qu'on a fait.
Tu te demandais, Lou n'a rien dit.
Si, on se demandait. J'étais plusieurs dans ma tête à se demander si l'animation pré-match du coup de Nakamura, qui était un espèce de, en français on dirait dessin animé, qui est sous forme de bande dessinée, est-ce que c'était plus, ça tient plus, parce qu'on s'attendait du manga, je trouvais que ça ressemblait plus à du comics, voire du même, si je devais citer, j'aurais dit un truc à la Sin City, et puis voilà, c'est tout. Et du coup, je me suis dit, on a besoin d'un expert pour nous départager, et départage-nous.
Ouais, ça ressemble un peu à du Robert Rodriguez. C'est-à-dire que c'est des Américains qui essayent de faire du manga, quoi. Vous avez aussi des fois des Français qui essayent de faire des comics. ça donne à peu près ça, quoi. Une bouillie un petit peu informe. Voilà, ça fait le job peut-être pour l'ouverture de Shotcatch. Voilà. C'est ni du manga ni du comics. C'est un gloubi boulga.
Catch.
Voilà, c'est du catch. C'est du Nakamura.
Ça ressemble à rien, c'est du Nakamura. Bon. Ah oui, ça marche bien, ça.
Bon, Nakamura qui retrouve un peu son strong style, non, dans ce match, quand même. Il a striké, quand même, non?
Il a striké au minimum, ouais. Il a retrouvé
il a striké. Ouais. Come on. Ouais, mais cette release, il n'a même pas sorti ça, je crois. Il y a plusieurs fois, il lui disait de venir, je crois.
Viens là, machin. Mets-moi une claque.
Frappe-moi.
Des dives en
vêtements. Tout le monde allemand.
On a eu des suicide dive dans tous les sens, un petit springboard, la Swanton qui était à l'intérieur, qui était pas mal de tous les suicide dive dans tous les sens, avec Nakamura qui balance Rollins sur la table des commentateurs qui n'avaient pas brisé hein, à cause de ces petits poids légers là, irlandais. Le coup de genou à porter dans le coin sur Seth Rollins. On place un half crab, mais ça ne dure pas très longtemps hein, puisque Rollins place un Hurricane Rana. Mais bon, le dos est fragile. Voilà, les lombaires, les vertèbres sont brisées. Il place quand même un Sling Blade, le Frog Splash. Et voilà, il n'est pas content, mais il souffre. Hein. Il souffre mentalement, il souffre physiquement. Le stomp, d'ailleurs, ne passe même pas. Hein. Ça sert à rien de passer un stomp. Et Nakamura, qui d'ailleurs lui pète le dos, il le place comme ça sur dans le coin du ring. Il lui donne des gros coups de tatane, des gros coups de genou dans le dos. Il le fait souffrir. Le Kinshasa qui ne passe pas parce qu'il se bouffe un énorme super kick, hein, le japonais. Puis c'est la prise de l'heure de la soumission.
C'est l'heure de la soumission. Vous aimez l'heure de la soumission. Vous aimez être soumis.
Et là, Nakamura va vous soumettre avec son triangle. Voilà, triangle isocèle. Le triangle isocèle de Nakamura. Voilà, qui est transformé voilà, en powerbomb. Voilà,
classique.
Super babyface voilà, qui a la vertèbre brisée. Voilà, une colonne vertébrale scindée en deux. Mais voilà, il place quand même une powerbomb en se relevant. Enfin, c'était incroyable. Il est très très fort. Mais le Kinshasa va finir par être placé quand même. Et puis Rollins qui il se prépare pour le Kinshasa. Non, oui, il lui place le Kinshasa dans la tête. Hein, à
Rollins. Ouais, dans la nuque, quand même. Ouais.
Mais Rollins est KO à ce moment-là. KO.
Mais il perd le match d'ailleurs. Nakamura est champion.
Voilà. Il revient. il revient avec un pedigree et puis derrière le stomp un petit peu de sortie de nulle part. Ça, le timing est un petit peu bizarre à ce moment-là parce qu'il place un pedigree et puis après il place un stomp, mais ça met un temps fou avant de faire le tomber. 1, 2, 3 et donc victoire de Seth Rollins sur Nakamura. Nakamura qui va vite fait se relever quand même. Hein. Il se retrouve vite et après il va rester très longtemps en dehors du ring. Mais on ne saura pas pourquoi puisque les caméras se coupent sur Seth Rollins qui repart avec sa ceinture et sa colonne vertébrale qui s'est refusionnée pendant ce match, visiblement.
Petit match de catch, ça remet un peu le dos en place, hein, généralement.
Au ringside, alors, est-ce que ça t'a remis en place?
C'est une grosse, grosse déception. 26 minutes.
Oh là là,
c'est le match le plus long de la soirée. Hein.
Ah oui.
Plus que le Steel Cage match et plus long que le Judgment Day qui le Street Fight qui est le troisième match le plus long de la soirée. Voilà les statistiques. Donc c'était interminable en fait. Bah ça commence avec une main blanche là de Rollins sur Nakamura qui dure bien 6 minutes. Ouais. Et puis après on commence un peu à se foutre sur la gueule. Alors il y a quelques gros moves de temps en temps, notamment là une belle. Alors, je ne sais pas si c'était une blue footer bomb ou quoi depuis le haut depuis le coin du ring là, de Nakamura là, qui écrase Rollins au sol. Hein, il le porte sur ses épaules et puis il le descend. Bon, ce n'était pas non plus super, super bien exécuté, mais on s'est dit que cette Rollins a dû se faire mal.
La bouillabaisse, hein, c'est la bouillabaisse de Nakamura, on en parlait en intro.
C'est ça. Une belle bouillabaisse. Ouais, bon, après, franchement, honnêtement, c'est Nakamura, il s'est quasiment botté le cul pendant tout le match. Il n'a pas paru plus costaud que ça. Comme je dis, il a sorti quelques gros moves, mais le match n'était pas non plus super fluide, c'était pas super rapide, c'était pas super rythmé. Voilà, ils ont fait tourner l'histoire autour du dos de Rollins, mais il n'y a jamais eu vraiment de moment où on s'est dit, ouais, là, il s'est fait mal au dos. Il n'y a pas eu de move spectaculaire où on s'est dit, ouais, là, il lui a pété le dos. Voilà, jamais, à aucun moment, Nakamura, il s'est acharné sur son dos à coups de pied ou des trucs comme ça. On est loin, loin de ce qu'on pouvait espérer du match. Moi, j'étais vraiment très, très déçu. C'était interminable. Nakamura en sort pas plus grandi que ça. Pourtant, il était assez over quand même en rentrant dans le truc. C'est vraiment le genre de match que j'aime pas à la WWE quand on nous montre comme ça un ennemi, un méchant, un heel au top de la dangerosité. Puis quand le match arrive, il se fait défoncer par le gentil. Il y a aucun moment où tu trembles pour Rollins. Voilà, je noterai juste que Rollins a exécuté le Rainmaker, la prise de Kazuchika Okada à un moment donné, petit clin d'œil.
Ah oui.
Mais ouais, c'est la corde à linge.
La corde à linge.
Ah, il l'a pas dit, ça, Cole. On n'a pas compris, du coup.
Ah, ouais. Bah voilà, il l'a pas souligné.
Il n'a pas dit un truc genre il fait pleuvoir ou un truc comme ça.
Même pas, j'ai guetté.
C'était un petit clin d'œil.
Ouais, un petit truc. Non, rien du tout. Ça l'aurait passé au-dessus.
Ah oui, c'était Rainmaker. Ouais, on n'a pas eu non plus de petit clin d'œil. Moi, je m'attendais à un petit clin d'œil à Bray Wyatt, à Dauphiné.
Ils ont fait l'émission hommage.
Ils ont fait leur deuil.
Non, mais alors, ça, si, alors attends, si, il y avait un clin d'œil à Bray Wyatt, mais pour le savoir, il fallait écouter les commentateurs qui nous expliquaient que le pantalon en collant, l'espèce de collant donc de Seth Rollins, ça avait des motifs qui rappelaient le pantalon de The Fiend.
Ah d'accord.
Hein, qui avait des pantalons à raie verticale, un peu comme
ouais,
à rigueur d'accord. Verticale.
Ah, il a porté ça
mais non, pas du tout. En fait, j'ai regardé. Ça n'a rien à voir, donc je d'accord. Ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Donc,
peut-être qu'il avait prévu et que quand il l'a mis, il a craqué le collant et du coup il a dû changer, mais on n'en a pas informé.
Après, peut-être des collants qui partent en dessous de son pantalon, on ne sait pas. Hein.
Ah ouais, peut-être
les chaussettes. Les chaussettes, le slip.
Ils l'ont vu en collant dans le vestiaire, j'ai dit ah, le film. Ah,
dis donc. Bon, c'est mes collants. Ouais,
les
voilà,
les bas de contention
de cette soirée. Aux couleurs de The Fiend.
Tous les bénéfices seront envoyés évidemment à la famille de
Bray.
Si tu nous regardes. Si tu nous regardes, j'espère que tu nous as regardé nous et pas ce match. Hein, parce que
c'était pas le plus bel hommage à Bray Wyatt pour le premier pay-per-view. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, donc voilà, grosse déception. Voilà, moi, je c'est fini, j'abandonne avec Nakamura. Hein, j'en étais grand fan, mais malheureusement, son aventure à la WWE ne sera que déception.
Mmh. Ah, papy, déçu ou tu t'attendais vraiment à rien et du coup, t'es pas déçu ou tu t'attendais à rien et t'es quand même déçu?
Alors, moi, je suis pas déçu. Par contre, c'est vrai que quand j'entends Ringside parler, je me dis que finalement, c'est un bon hommage à Bray Wyatt puisque c'est en main event, c'est sur trois plombes. Tu t'attends quelque chose, il se passe rien. C'est du Bray Wyatt.
Trop tôt, tu peux pas. C'est trop tôt.
Ah, c'est trop tôt, merde.
Les Bray Wyatt.
Moi, je pensais qu'on a vu.
Le corps n'est pas froid.
On a eu les clips, c'est bon.
Quelle indécence.
Ah, bon, allez. Du coup, je vous ai. Du coup, moi, j'attends rien de Nakamura. J'avais déjà exprimé les dernières semaines. Donc, comme je n'attends absolument rien de lui, j'ai pas été si déçu que ça. J'ai trouvé que c'était un match propre pour un main event, pas génial, propre. Voilà, c'est vrai qu'en plus, la blessure de Seth Rollins qui est un peu out of nowhere parce qu'il a jamais mal au dos, puis il suffit que l'autre il lui dise en japonais qu'il a mal au dos, et depuis il a super mal au dos.
Ça a réveillé les blessures.
C'est ça a réveillé les blessures, de lui dire en fait. Il somatise en fait.
Il avait glissé la news, moi je l'avais lu dans les dirt sheets, genre 3 semaines avant que démarre avec la rivalité avec Nakamura. Il avait sorti dans une interview, oh, ça fait un moment que j'ai mal au dos et tout.
Ah, en fait. Ouais.
Mais je pense que c'est vraiment un gros work. Parce que,
d'accord. Mais du coup, il a mal au dos et quand on lui fait n'importe quelle prise qui touche pas le dos, il a mal quand même.
Ouais, voilà.
En fait, il a mal partout. Hein. C'est un vieux mec tout cassé, c'est le problème. Qu'est-ce qui me saoule? Du coup, ouais, le match est bien long. Franchement, des matchs de main event de ce niveau-là, j'en ai vu beaucoup, moi, WWE, quoi. C'est un pay-per-view de transition, un adversaire de transition. Mmh. Nakamura, aucun moment, tu penses qu'il a gagné, mais bon, Seth Rollins, c'est tellement cassé que c'est le fait qu'ils sont péril, qui peut-être qu'à un moment, il va craquer, ou peut-être pas. T'as toujours le jugement de deux, en plus, qui plane derrière, même si pour une fois que vous avez un mec qui était complètement pété en deux, ils ont dit oh, non, on va aller se bourrer la gueule.
Il y a une petite séquence effectivement où c'est Rhea Ripley qui a dit à. C'était ça, hein, oui, Rhea Ripley. C'était là ? Oui, c'était là. Une petite séquence backstage avec Rhea Ripley qui regardait la caméra et qui à l'écran et qui disait non, pas maintenant.
Non, ça c'était à Oro.
Ah bon ? Bon, on en parlera à Oro alors.
ils sont juste partis après avoir fait l'interview. Non,
mais c'est pour faire la teuf, t'as raison. Mmh.
C'est ça. Et on n'a qu'une vie, hein.
Ils ont eu raison de se barrer avant. Hein.
Donc pas déçu, parce que de toute façon, je n'attends plus rien à Nakamura. Et à la limite, je suis même agréablement surpris parce que il est tellement bas dans mon estime que finalement, le peu qu'il a fait là, c'est quand même mieux que ce que moi je pensais de lui. Donc, tu sais dire à quel point je fais un avis négatif sur cette grosse feignasse de Shinsuke Nakamura.
Bon, on connaît ton top déjà, du coup. Ouais, c'est pas mal. Bon, du coup, on arrive à la fin. John Cena m'a même pas fait une petite apparition hein, pour que tu aies.
Peut-être après. Il est déjà rentré. Hein.
une fois que le rideau est tombé. Hors caméra, une fois que les caméras étaient coupées, on a su un peu plus tard ce qui s'est passé. Nakamura a attaqué Seth Rollins. C'est ça qu'il attendait. Bon il attendait sagement. Oui, oui.
Il attendait que le petit bouton rouge s'arrête.
D'accord. Ouais. Ouais. Et donc, ils vont s'affronter bientôt alors.
On ne peut pas te dire ringside.
On peut pas, tu faut regarder Raw.
D'accord.
Faut regarder Raw. Il y avait le Great Muta aussi qui était là.
Ah ouais, le Great Muta.
Oui,
était là,
c'est vrai.
Lui aussi, il a dû se barrer avant la fin.
Ouais.
Je pensais qu'il allait intervenir ou quelque chose comme ça, mais.
Je pense aussi qu'il a craché un truc, moi.
Ouais. Ça aurait été sympa. Hein
un gros glaire, mais c'est un glaire parce qu'il est de mécontentement. Remboursé. Gros molard. Bon, allez, c'est l'heure du mot de la fin. Allez. Top, flop et note. Mon bon papy, tiens, allez, toi qui es devant.
C'est bon, qui commence, allez, on y va. Oui. Attends, je sors mes notes, du coup. Qu'est-ce que j'ai mis comme note? Alors, le flop, je vais le donner à... Je vais le donner à l'arbitrage John Cena. Voilà.
Bon, puis... Ça va pas.
C'est dur.
Le GOAT.
D'accord. Bah, soit ça, soit Cody Rhodes. Donc, un des deux.
Bah, on va donner à Cody Rhodes, alors.
Oui, je donne à Cody Rhodes. Allez, vas-y, j'écoute mes amis.
Non,
Cody Rhodes, non, mais c'est pas possible. Ça. Voilà, je vais tout traiter maintenant. Non, mais c'est un scandale, Cody Rhodes.
C'est évident que c'est le flop.
Franchement, qu'est-ce qu'il vient foutre là mais sortez-le, ce monsieur, sortez-le. Moi, en plus, qui suis un fan de Cody Rhodes à première heure, je n'en peux plus de ce forçage. On l'aime tel qu'il est, c'est pas bête de nous expliquer qu'on doit l'aimer. Ça, je ne supporte pas ça.
Ouais, attention, c'est bien petit avertissement.
Carton jaune.
Bon, un top peut-être quand même. Nakamura.
Un top, bien sûr, un top. Alors là, du coup, c'est beaucoup plus facile puisque je donnais à la paire canadienne et à son match extrême qui est extrêmement satisfaisant, très haut niveau et qui sera certainement dans les catch-up awards, dans le haut du panier parce que j'imagine peu de matchs meilleurs que ça, même si il me semble qu'il y a un majorine qui était pas mal aussi. Et ma note, du coup, j'ai fait la moyenne des matchs et je suis tombé pile poil sur un magnifique 3,5, puisque c'était rien de catastrophique. Un match au-dessus du lot avec le Magic canadien. Et puis donc, du coup, ça donne un peu par vu que dans la moyenne bonne de l'année.
Très bien, très bien. Moyenne, bonne. Ok.
Bon, c'est mathématique. C'est mathématique.
On s'acharne sur Cody Rhodes ce soir ou comment ça
Tiens, Cody Rhodes, prends ça dans ta gueule. non, moi je vais donner mon flop à Shinsuke Nakamura qui a loupé.
Le GOAT.
Le GOAT. Ben non, alors attends, tu veux que je le mette à qui à Cody. Je vais le mettre à Cody. Alors c'est scandaleux ça.
C'est scandaleux.
C'est une évidence.
On n'est pas. On nous le fout au fond de la gorge là. C'est pas possible. Moi j'en peux plus. Non mais Nakamura. Voilà, je l'enterre ce soir. Je suis désolé. Voilà, c'est à la mesure de mon mécontentement et de ma déception.
Ah oui.
Je déteste ça. Quand ils font des matchs comme ça où on s'attend à avoir un rival de haut vol et puis que finalement il se fait marcher dessus comme le premier jobber venu, ça ne va pas. Ils vont peut-être rattraper le coup dans un prochain match, je ne sais pas. Ça arrive chez Seth Rollins qui donne le meilleur match en deuxième comme ça. Le top, je vais le donner. Une fois n'est pas coutume, j'ai donné aux filles, je vais donner à Becky Lynch et Trish Stratus en opener.
C'est bien.
Elles se sont dépassées, elles ont vraiment donné. Donc je suis. Je ne peux que admettre qu'elle mérite un top, même si on aurait pu donner effectivement aux Canadiens et aux Judgment Day qui ont fait un match incroyable. Et la note, je vais être plus sévère, d'après mes calculs, parce qu'avec le coefficient multiplicateur.
Ah oui, le coefficient multiplicateur. Le calcul du cœur que tu dois faire ringside, voyons.
C'est ça, c'est rajouté après, en exposant.
La variable d'ajustement.
Voilà, ça fait 2,5, c'était moyen.
Ah ouais.
Ça a démarré très bien, mais ça s'écrase complètement à la fin. Les deux derniers matchs étaient interminables, pas bons. Et du coup, c'est la construction du show qui pose problème, en fait. Encore une fois, la grosse faiblesse de Triple H, qui ne sait pas mettre ses matchs dans le bon ordre. je pense qu'on sera d'accord peut-être pour dire que le match tag team devait être le main event sur le coup.
Oui.
Mais bon, on dit maintenant qu'on a vu, on sait pas. Je serais bien incapable de vous dire dans quel ordre elle devrait être cette carte, mais en tout cas, c'était pas cet ordre-là qu'il fallait utiliser. Voilà, donc 2,5 pour ce payback, le fameux adage. Hein, quand on s'y attend pas trop, quand on n'est pas trop hypé, ça donne un grand pay-per-view. Ben, ça n'a pas fonctionné pour ce mois-ci.
Ouais. Écoutez, ben moi, mon flop, on pourrait donner à Cody Rhodes hein, pour s'acharner. Évidemment.
Tu veux pas le donner à Cody, non.
Je veux pas le donner à Cody, non, non.
Cody. On l'aime trop. Ben moi, je vais le donner globalement. Ah, la longueur là, de ces deux derniers matchs, là, c'était interminable. C'était interminable.
Ouais, non, faut pas faire ça.
Surtout que moi, je l'ai regardé en deux fois, toi. Et la deuxième partie, c'était ça, en fait.
Donc, ah, ouais.
En fait, tu ne rentres pas. Tu sais même pas que tu sors du truc. C'est, tu ne rentres même pas dedans.
Tu recules un petit peu. Comme ça.
Oui. Tu rejoues
sur le trottoir d'en face.
Je vous fous là. Et puis mon top, je vais le donner au Judgment Day. Qui rafle la mise.
Ouais,
qui ont leur match référence. Hein, là, c'était parfait. Là, hein, où à la fin, ça paye quoi. Hein, ça paye. Voilà, toute leur stratégie. C'était vraiment. Je trouvais que ce match globalement était très 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 bien raconté. Donc voilà, je suis content pour eux. Bravo, vive le Judgment Day. Voilà, on va en bouffer. Hein. J'espère que vous aimez vous aussi parce que vous allez en bouffer. Et ma note, moi j'ai trouvé que c'était un très bon pay-per-view secondaire. Je vais être du coup de facto assez généreux malgré cette dernière heure complètement follement ennuyeuse, follement ennuyeuse. Alors, t'as donné 3,5 papy, ah, c'est pas mal déjà 3,5. Hein. Est-ce que je vais aller jusqu'à 3,75?
Ouah, il passe au-dessus.
Oh là 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 là, là.
Oh là, là ouais. Je suis complètement à contre-courant. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, j'ai un 375.
C'est un Nakamura, toi.
Ouais, ouais, mais voilà, probablement aveuglé par toute la folie qui a régné pendant les deux tiers du pay-per-view, je dois l'avouer. Mais j'irai pas jusqu'au 4, faut pas déconner.
Non.
Mais je comprends totalement les griefs qui t'ont poussé, Ringside, à aller à 2,5, je comprends.
Ah, c'est des méthodes, c'est calcul. Hein. C'est comme ça.
Ouais, chacun ses méthodes, voilà, il n'y a pas de.
Voilà. Là, c'est...
Malheureusement.
Exactement. Bon, bah, c'est comme ça, messieurs, qu'on se quitte pour ce week-end complètement fou, hein, avec Payback. Une fois de plus, on peut dire quand même un pay-per-view dont on ne pouvait rien attendre et qui a donné de sacrés bons matchs. Hein, voilà, il faut aller chercher sur les pay-per-views secondaires pour trouver les matchs de l'année parfois, tout simplement.
Ouais, il y a quelques concurrents là qui sont bien placés, mine de rien.
Ouais. Il y a quelques catcheurs, quelques bien, superstars qui ont tiré leur carte. Leur épingle du jeu, comme on dit. Je vous rappelle que Catch-Up, on analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. Pour nous suivre et ne manquer aucun épisode, c'est très simple et comme le dit Ringside, c'est gratuit. Il suffit de s'abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast ou sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Catch-Up CDC sur Twitter, Instagram et Facebook, mais également notre Discord. C'est là où Papy pose des questions à Ringside. Et on répond en direct dans les analyses des choses.
C'est pratique, ce Discord. Hein.
Ouais.
Exactement.
Ah, c'est le nouvel endroit où on cause.
Ouais. On a également les concours de pronos qui s'est déroulé rapidement. Ouais, c'était la cata pour certains. C'était la cata pour certains, notamment Papy qui, je crois, n'a pas voté, tout simplement.
Bah non, mais le samedi, j'oublie à chaque fois, ça m'énerve.
Ah ouais. Ouais.
Il faut mettre la petite alarme sur le téléphone.
Bah oui, c'est le samedi. En plus, je laisse vraiment là. Tu peux voter jusqu'à une heure, jusqu'au début du pré-show, en fait. Hein. J'ai mis vraiment. Donc, c'est 1h du matin.
Donc, ouais, mais 8h le dimanche, du coup, ça passe plus.
Non. Ça passe plus. Pas de gagnant. Voilà, on s'est terminé par un. Monsieur incroyable, par un. No contest. Hein, puisque
bravo.
5 pronostiqueurs ont fait un perfect sur. Sur les pronos, y compris sur le Judgment Day, mais les tiebreakers n'ont pas réussi à départager tout ce beau monde. Donc, malgré tout, hein, félicitations à Chetty, Gwen, Jericho, Sully Perfecten et Tony Voriz hein, pour leur perfect qui ne servit à rien. Et puis, au classement général, ça ne bouge pas avec Gwen qui est toujours notre champion tenant du titre, leader du classement général. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ce concours de pronos permanent. On peut gagner à chaque pay-per-view, c'est assez incroyable. Et puis, n'oubliez pas, c'est le samedi soir maintenant. Le samedi soir que ça se passe. Parce qu'ils ont peur en face. Il y a la AEW le dimanche.
Donc, ouais, on ne se risque plus.
Voilà. C'est ce que vous dira Ringside. Bon, allez, je te remercie justement, Ringside, de ta présence et de ton esprit. Tu es toujours le bienvenu ici au studio Catch-Up, évidemment.
Oh ben, merci, plaisir partagé. J'étais très content de venir pour cette review. Là, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais c'était encore un grand plaisir de faire tout ça avec vous, les amis.
Ben oui, une nocturne, hein, un peu à l'ancienne. Voilà. Ouais, il est déjà très tard, moi j'ai plus l'habitude. Hein. Et toi, papy, t'as l'habitude là, comme ça là. Pff, c'est chaud. Hein.
Voilà,
merci à toi d'être venu aussi tard.
Hein. Ben oui, mais merci. Moi, je me suis réveillé. Hein. Ça faisait déjà 2 heures que j'étais couché. Hein. Donc, bon. Ça fait plaisir en tout cas de partager ce moment avec vous au petit matin du réveil.
C'est beau, c'est beau. Bon, en tout cas, voilà, on vous souhaite. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On va bientôt parler de Monday Night Raw. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Main Event Jey Uso va faire le Main Event de Monday Night Raw ou l'Opener? On ne sait pas. Est-ce qu'il va s'appeler Opener Jey Uso? La question, elle sera vite répondue très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut!
Ciao. Salut à tous.
Les Allemands, ils ont un goût douteux quand même.